France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Je pense que la plupart des gens intelligents n'ont assez de Netanyahou. Il a dirigé trop longtemps. Netanyahou, dans ses premières années, n'était pas aussi populiste. Il a toujours utilisé le populisme, mais la plupart du temps, il n'agissait pas comme un populiste.
Je pense que ce que Netanyahou a particulièrement réussi, c'est qu'il a identifié ce basculement dans la vie israélienne, ce nouveau regard sur la société, comme la menace sur les valeurs juives et la menace sur l'identité juive.
Il a déjà passé 13 ans à la tête du gouvernement israélien. S'il est réélu à l'issue des élections législatives de mardi prochain, Benjamin Netanyahou pourrait bien battre le record de longévité détenu par David Ben-Gourion, fondateur de l'État d'Israël. L'actuel Premier ministre a pourtant de gros ennuis judiciaires. Accusé notamment de corruption, il risque d'être mis en examen dans 3 dossiers. Il a aussi face à lui la formation Bleu-Blanc, une alliance de centre-droit menée par le général Benny Gantz, ancien chef d'état-major. Elle devance légèrement le Likoud dans les sondages. Mais Benjamin Netanyahou mène une campagne offensive pour décrocher son 5e mandat. Il souligne sa stature internationale en s'affichant aux côtés de Donald Trump, de Vladimir Poutine et du nouveau président brésilien Jair Bolsonaro. Il met en avant son expérience, la bonne santé économique de son pays et il prend soin de ses alliés ultra-orthodoxes en vue de former une nouvelle coalition gouvernementale. Benjamin Netanyahou n'a pas l'intention de lâcher le poste qu'il occupe depuis 10 années consécutives, quitte à forcer le trait dans ses discours de campagne et à prétendre que sa défaite signifierait l'accession au pouvoir des Arabes israéliens. Netanyahou, 10 ans après, l'État d'Israël, c'est un reportage signé Étienne Monin. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons Eva Ilouz, sociologue et universitaire, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Bonjour Eva Ilouz.
Oui, bonjour Aurélie.
Vous êtes aux côtés d'Étienne Monin, notre envoyé spécial permanent à Jérusalem. Votre tout dernier livre s'intitule « Les marchandises émotionnelles, l'authenticité au temps du capitalisme ». C'est un ouvrage collectif que vous avez dirigé. Il vient de paraître aux éditions Premier Parallèle. Vous nous ferez donc profiter de votre regard de sociologue après le reportage d'Étienne Monin. Étienne, c'est le dernier jour où l'on peut diffuser des sondages en Israël avant le scrutin de mardi. Est-ce que Benjamin Netanyahou a clairement pris l'avantage ?
Non, clairement pas. C'est une élection disputée, même s'il a quand même un avantage. Il faut deux paramètres pour cette élection. Alors, le premier, si possible, d'arriver en tête des partis, mais surtout d'être capable de former une coalition, c'est-à-dire d'avoir une majorité d'au moins 61 députés sur 120 à la Knesset. Benjamin Netanyahou pourrait être, d'après les sondages devancés par le parti d'opposition bleu-blanc dirigé par Benny Gantz, mais il serait en l'état le mieux placé pour construire une coalition qui reposerait sur les ultra-orthodoxes et sur les partis d'extrême droite. Donc pour l'instant, théoriquement, selon les indications de vote, alors qu'on est encore à 4 jours, qu'il y a pas mal d'indécis et qu'il y a beaucoup de partis qui se présentent, le Premier ministre sortant serait celui en meilleure position pour former une coalition. Tout ça au conditionnel parce que cette élection comporte quand même pas mal d'éléments encore d'incertitude.
Alors le Premier ministre est en poste depuis 10 ans consécutifs. Où a-t-il mené son pays ? On écoute votre reportage, Étienne.
En Israël, le train n'est pas un mode de transport très développé. On circule encore beaucoup en bus, c'est d'ailleurs un problème. Les routes sont bondées, parfois périlleuses. Alors cette ligne de train entre Jérusalem et Tel Aviv est un bon reflet de l'état du pays. Elle est le symbole de l'avenir, un lien rapide et direct entre les deux grandes villes opposées du pays. Elle renferme aussi ce mélange de technologie et d'archaïsme qui compose toujours Israël. La construction de la ligne est un exploit technique, mais le chantier a été freiné, notamment par les querelles religieuses. Le retard d'exploitation est abyssal et Tel Aviv n'est toujours pas connecté. Mais en Israël, on va de l'avant, donc profitons de ce premier lien entre Jérusalem et l'aéroport. 23 minutes pour aller à Ben-Gourion. C'est l'idéal pour sonder les passagers sur ces élections, transformées par le Premier ministre en référendum sur sa personne.
Je pense que la plupart des gens intelligents n'ont assez. Ils sont fatigués de Netanyahou. Il a dirigé trop longtemps. Même si ses déclarations sont populaires dans le monde, populaires aux États-Unis, populaires auprès de nos alliés, il est très impopulaire ici. Mais nous avons une vraie crise de gouvernance, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de véritable opposant à Bibi. Et maintenant que nous avons le nouveau parti de Benny Gantz, il y a une chance. Je pense que je vais voter pour lui, même si mon choix était légèrement différent. Mais je crains qu'il soit la seule alternative qui soit offerte pour Netanyahou.
About Netanyahu specifically, I think that he has great skills.
Sur Netanyahu spécifiquement, je pense qu'il a de bonnes compétences et il a réussi avec les leaders du monde. Je pense aussi qu'il gère très bien les risques, la sécurité. Mais en fait, je soupçonne les médias d'utiliser toutes leurs ressources pour tourner les informations dans leur sens. Ce qui se comprend. Les médias sont plus à gauche, donc plus dans l'opposition.
Benjamin Netanyahou vise un cinquième mandat comme Premier ministre. Il a fait le choix d'avancer ses élections, menacé par le calendrier judiciaire qu'il a finalement rattrapé en pleine campagne. Dans les sondages, il est inquiété par une nouvelle formation du centre, mais il a la réputation d'être un submersible, capable de tirer sur toutes les ficelles, y compris celle du populisme, qui a pris de plus en plus de place institutionnelle, estime le politologue Gideon Rara de l'Institut pour la démocratie en Israël et de l'université hébraïque.
Globalement, je pense que Netanyahou, dans ses premières années, n'était pas aussi populiste. Il a toujours utilisé le populisme, mais la plupart du temps, il n'agissait pas comme un populiste. C'est à partir de 2015 que Netanyahou a commencé à appliquer une politique populiste. Il a commencé à adopter des lois dirigées contre certaines institutions qui forment la société libérale démocratique. Donc il était populiste dans sa rhétorique depuis le début, mais beaucoup de politiciens sont comme ça. Ça n'est pas unique. Ce qui devient unique, c'est qu'il a changé en 2015 pour devenir populiste dans les faits, en adoptant plusieurs lois qui peuvent être vues comme des lois contre la démocratie libérale. Je pense que ce changement est lié au changement de coalition, parce que maintenant, nous avons une coalition de droite religieuse. Je pense aussi que la victoire de Trump lui a donné une légitimité pour cela. Il n'y a plus Obama derrière lui pour lui dire d'agir démocratiquement. Il peut faire ce qu'il veut et il aura toujours le soutien de son confrère populiste Trump. Donc il ne se retient plus, ni en Israël, ni en dehors d'Israël. En plus, il y a maintenant les poursuites judiciaires lancées contre lui. Il combat pour sa survie, et je pense que maintenant, il se bat pour lui et il fera tout pour ne pas terminer en prison.
L'un des succès les plus visibles du Premier ministre, c'est l'ancrage du pays dans l'économie libérale. Israël a des indicateurs extrêmement favorables et une réalité plus nuancée. L'économie ne fait pas partie de la campagne, mais elle fait partie de la réalité des Israéliens. Dan Katarivas est un ancien attaché commercial à l'étranger. Aujourd'hui, il dirige les relations internationales de l'Association des industriels d'Israël.
Le changement de l'économie israélienne d'une économie dirigiste, étatique, socialiste, coopérative, etc., ce processus de laisser les idéologies et de passer plus sur le côté libéral, économie de marché et concurrence, etc., tout ça, c'est un processus qui a commencé depuis 1977 et qui a continué, qui a été certainement accentué par Netanyahou en tant que ministre des Finances et certainement en tant que Premier ministre depuis plus d'une dizaine d'années. Vous n'avez qu'à voir les rapports du Fonds monétaire ou les rapports de l'OCDE. Israël, depuis plus d'une quinzaine d'années, se comporte très bien. Vous regardez ce qu'on appelle les données macroéconomiques qui sont... déficit budgétaire, dette par rapport au PIB, dette extérieure par rapport au PIB, chômage, inflation, tout ça, on a des très bons points. Je pense que là, également, je pense qu'il est important de dire aussi qu'il y a une certaine stabilité et continuité dans la politique économique. Tout le monde veut le plein emploi, tout le monde veut augmenter les exportations, tout le monde veut contrôler l'inflation, tout le monde veut garder une discipline fiscale. Donc il n'y a pas de grand enjeu économique qui sépare les différentes familles politiques. De là à dire qu'il n'y a pas d'autres problèmes, il y en a. Comme dans beaucoup de pays occidentaux, nous avons des problèmes dans la répartition des richesses. Les riches deviennent plus riches, les pauvres malheureusement ne bénéficient pas de la même manière de la croissance, dont les écarts sociaux en Israël n'ont fait que grandir dans les dernières années. Il y a un gros problème de logement, avec les prix de logement qui sont très élevés, avec également, je dirais, un coût de la vie qui est assez élevé, c'est également pose des problèmes, puisque les salaires ne suivent pas nécessairement. Mais ce qui est très important, c'est que le taux de chômage est très bas. Et je pense qu'effectivement, l'avenir économique israélien, il est dans la bonne direction. Surtout la possibilité de l'économie israélienne de s'adapter aux changements mondiaux et de développer des secteurs de niche et à ce moment-là prendre, je dirais, même le leadership. Aujourd'hui, Israël est l'un des pays les plus avancés dans le domaine du cybersécurité. Et Israël a aujourd'hui 20 à 30% du marché mondial en cybersécurité. Je pense qu'Israël sera là également dans le prochain domaine à la page.
You know, when I joined the Foreign Service,
vous savez, quand j'ai intégré les affaires étrangères, il y a 105 ans, je crois qu'on avait des relations diplomatiques avec 80 ou 90 pays. Maintenant, le chiffre est de 160. On est en train de colorier le monde en bleu. Je suis allé en Afrique 3 fois en 18 mois. Je suis allé en Amérique du Sud. Les choses changent. Tous ces pays viennent à nous. L'Inde, la Chine, la Mongolie, l'Azerbaïdjan, les pays musulmans. Vous vous souvenez de ceux qui parlaient de l'isolement d'Israël? Très bientôt, les pays qui n'ont pas de relations avec nous, ce sont eux qui seront isolés.
L'indéniable talent de tribun de Benjamin Netanyahou, c'était il y a un an, devant le lobby juif américain l'AIPAC, le Premier ministre fait la promotion de l'ouverture d'Israël sur le monde. Avec la sécurité, c'est un point fort de son bilan qu'il met en avant pour entretenir cette stature d'homme d'État, seul capable de hisser Israël au niveau des plus grands. Depuis 2015, Benjamin Netanyahou gère seul la diplomatie. Récemment, il a chaleureusement accueilli le président philippin Duterte, les populistes européen et le brésilien Bolsonaro. Pour l'avocat Etaï Mack, cette diplomatie est influencée par des préoccupations internes qui sapent ses fondements. Etaï Mack lutte contre l'armement par Israël de régimes autoritaires. Il a une théorie sur la méthode Netanyahou.
Ce qui s'est passé ces dernières années, et je pense que Netanyahou a poussé à l'extrême une politique qui avait déjà été appliquée par les gouvernements israéliens, c'est ce que j'ai baptisé la doctrine Micronésie. Ce que ça veut dire, c'est que Netanyahou construit des alliances avec des petits pays qui, dans la plupart des cas, n'ont pas de position géopolitique importante. Mais Netanyahou, lui, pense quand même que c'est important, parce que ces pays vont voter aux côtés d'Israël dans les forums internationaux. Et Israël paye cela avec du matériel de défense qu'elle exporte. Elle paye aussi en donnant une légitimité politique à des régimes qui ne sont pas démocratiques. La diplomatie israélienne est obsédée par toutes les voix perdues, même dans un vote mineur qui pourrait profiter aux Palestiniens. Par exemple, Netanyahou, au début de 2016, craignait qu'il y ait un vote contre Israël à l'UNESCO. Donc il a parlé au téléphone avec Rodrigo Duterte, le président des Philippines, qui est impliqué dans des crimes contre l'humanité dans son pays. Il l'a convaincu de voter avec Israël à l'UNESCO. Et l'un des volets de l'accord, c'est qu'il l'inviterait pour une visite officielle en Israël, pour le relégitimer, malgré les crimes commis aux Philippines. L'accord prévoyait aussi que les Philippines recevraient des armes d'Israël. Tous les gouvernements israéliens ont fait cela. Mais dans le passé, il y avait des intérêts sécuritaires ou d'autres types d'intérêts. On pouvait être contre, mais il y avait une forme d'intérêt pour le pays. Aujourd'hui, ce que l'on voit avec Netanyahou, c'est que vis-à-vis de beaucoup de pays, le seul intérêt, c'est d'avoir des votes. Le seul intérêt est politique.
Thank you.
Gaza il y a une poignée de jours, c'était la semaine dernière, contre la frontière israélienne pour une nouvelle manifestation avec une célébration par les Palestiniens dès un an de la marche du retour. La pression et la violence de Gaza est régulière, la situation à l'intérieur se dégrade continuellement et la gestion de ce conflit ne permet pas encore d'espérer une solution. Gaza est un thème de campagne pour la droite, mais seulement sous l'angle de l'affrontement. Le conflit israélo-palestinien dans son ensemble est invisible et la recherche de la paix absente des réflexions. Ofer Salzberg est israélien, chercheur à l'International Crisis Group.
La politique de status quo de Netanyahou est façonnée pour éviter deux scénarios qu'il trouve menaçants. Le premier est un État palestinien d'où de missiles et de roquettes vont être tirés contre Israël, il est convaincu. Et l'autre est qu'Israël serait obligé d'annexer la Cisjordanie et donc donner la citoyenneté israélienne aux Cisjordaniens. Et le problème de Netanyahou est que pour éviter ces deux menaces, il a créé une troisième. Et la troisième est l'affaiblissement de l'autorité palestinienne et un devoir côté israélien d'aider le Hamas, une association qu'Israël considère terroriste. Et donc Netanyahou est dans une situation absurde où pour éviter le terrorisme de la Cisjordanie, il facilite l'argent qatari à une association terroriste à Gaza. Et pour éviter le terrorisme, il affaiblit l'autorité palestinienne qui coordonne avec Israël dans le domaine sécuritaire ses efforts contre le terrorisme. C'est-à-dire la politique de status quo ne maintient pas un status quo dans le fait. Elle crée une nouvelle situation avec ses propres menaces.
Est-ce que la communauté internationale a encore un rôle aujourd'hui diplomatique, je dirais, vis-à-vis de Gaza, ou est-ce qu'elle n'a pas lâché ce rôle-là au profit d'un rôle plus humanitaire, d'accompagnement finalement de cette lente dérive?
Et oui, je pense que clairement, à Gaza et ici à Israël, le sentiment est que la communauté internationale regarde la bande de Gaza seulement comme un sujet humanitaire et évite d'avancer des solutions politiques pour la bande de Gaza. C'est-à-dire spécifiquement qu'on ne voit pas de pays importants qui cherchent à faire avancer la réconciliation entre Palestiniens et la position qui dit que pour la paix israélo-palestinienne, il faut que le peuple palestinien serait unifié derrière un leader qui peut faire des négociations et donc de signer des compromis. Et c'est cette séparation entre la bande de Gaza et la Cisjordanie qui affaiblit beaucoup la bande de Gaza et crée la crise humanitaire.
Sur le plan intérieur, est-ce que Benjamin Netanyahou profite réellement de cette situation ou est-ce que par moment, avec les pics de tension, ça le fragilise finalement?
Le deux, il y a des périodes dans lesquelles Netanyahou est réussi à cette manière d'accorder en fait une certaine stabilité pour les Israéliens. Et on voit en effet une augmentation de tourisme, on voit qu'il y a plus d'investissements d'étrangers, etc. Et de l'autre côté, comme cette situation elle n'est pas stable, chaque fois après, quand il y a un mortier ou un missile qui tombe à Be'er Sheva, il est le coupable parce que c'est lui qui avance une politique qui évite les négociations diplomatiques.
Est-ce que les Israéliens semblent encore prêts à se saisir du sujet de négociation avec les Palestiniens ou est-ce que l'opinion publique israélienne ne veut plus en entendre parler?
L'opinion publique israélienne a zéro confiance aux Palestiniens, spécifiquement à l'OLP, évidemment le Hamas, et donc il y a très peu d'intérêt dans le sujet des négociations. À la fois, il y a aussi une volonté à changer la situation, parce qu'il y a quand même des prix importants pour la vie quotidienne, il y a des tués, des blessés, et donc il y a plus de soutien pour une politique unilatérale israélienne que pour des pourparlers israélo-palestiniens.
C'est un vendredi matin tôt, sur la lumineuse esplanade devant le mur des Lamentations. Ce matin-là, il faut jouer des coudes pour avancer. L'endroit est saturé d'ultra-orthodoxes. Ils sont venus par bus pour empêcher d'autres juifs israéliens de pratiquer leur conception du judaïsme. Ils luttent en fait contre des femmes qui souhaitent être libres dans leur façon de prier. C'est l'une des violences internes en Israël. Des gens sont bousculés sur la place. Il faut la protection de la police. Les orthodoxes défendent leur monopole sur les institutions religieuses, il n'y a pas de place, surtout devant le kotel, le mur des lamentations, pour le pluralisme. Valérie Stessin appartient à une branche qu'on peut appeler de libérale du judaïsme. Elle fait partie des femmes du mur. Ce vendredi, dans ce lieu saint comme les autres, elle a été bousculée.
Ce qui s'est passé ce matin et ce qui se passe chaque mois, ça montre à quel point on représente quelque chose qui est très difficile pour eux à accepter. La différence, le pluralisme, et une autre façon de vouloir vivre son judaïsme.
Mais est-ce que c'est pas eux qui ont le pouvoir, les orthodoxes? Est-ce que c'est pas eux qui détiennent les clés aujourd'hui du judaïsme, de la pratique religieuse en Israël?
D'une certaine façon, vous avez raison. Il est vrai que, par exemple, le Kotel, qui est normalement un site historique...
Donc le mur des lamentations...
Oui, pardon, le mur des lamentations est un site historique. C'est un site qui appartient à tout le monde et au peuple d'Israël, mais aussi à tous ceux qui veulent y aller et aller y prier. Mais il est considéré par les orthodoxes pratiquement comme une synagogue orthodoxe. Il y a même un rabbin qui est le rabbin du mur des lamentations, qui est bien sûr un rabbin ultra-orthodoxe. Malheureusement, les tribunaux, et ça a été déjà dit et redit et décidé à plusieurs occasions, que le Kotel était un endroit où tous les gens qui voulaient prier avaient droit d'y prier d'après leur tradition, d'après leur façon de leur vision, et pas un endroit qui appartenait aux orthodoxes.
Est-ce que l'actuel gouvernement a reculé sur ce dossier-là?
Donc je pense que c'est un peu souvent comme deux pas en avant et en arrière. D'un côté, il y a des choses qui évoluent. Par exemple, il y a ce qu'on appelle le Kotel Masorati, le mur qui est juste à côté du mur des lamentations et qui est un endroit où chacun peut venir prier, où on peut avoir des offices égalitaires. Maintenant, à côté de ça, c'est un endroit qui aurait dû aussi être arrangé pour qu'on puisse y arriver facilement, librement. Et l'entrée est encore une petite entrée cachée que presque personne ne connaît. Les horaires sont limités. Mais je pense que, quand je regarde comme ça ces 25 ans, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je pense que dans le public israélien, il y a, et en partie grâce aux femmes du Kotel justement, beaucoup plus de conscience du problème que ressentent surtout les Juifs, qui sont les Juifs qui font partie des mouvements libéraux, mouvements réformés, mouvements conservateurs, tous ces mouvements qui veulent vivre un judaïsme et développer un judaïsme qui soit plus ouvert et qui soit plus adapté au monde moderne. Et je pense que le fait qu'il y ait ces tensions et même cette violence au mur des lamentations tous les mois, c'est quelque chose qui est très négatif. Et d'un autre côté, c'est quelque chose qui a permis à toute la société, et en Israël et même à l'extérieur, de se rendre compte qu'il y avait là un problème et qu'il fallait essayer de trouver une solution pour que chacun ait le droit de vivre tel qu'il veut le vivre. Je pense que c'est assez effrayant de voir comment les mouvements orthodoxes, c'est vrai, arrivent à imposer énormément de choses parce qu'ils ont ce pouvoir politique. Et je pense que c'est pour ça que c'est très important d'élever une autre voix.
Les ultra-orthodoxes sont une composante politique importante en Israël. Depuis 2015, ils font partie de la coalition, ils pèsent sur la vie quotidienne, ils sont prêts à poursuivre la route avec l'actuel Premier ministre, malgré les soupçons dans les affaires. Ce monopole empoisonne la société, estime Raïm M. Salem. Il est religieux aussi, il a quitté l'un des partis au pouvoir, il roule aujourd'hui pour une formation extrémiste, mais il dénonce aussi les arrangements et la raideur des ultra-orthodoxes.
Pour moi, dans le monde séfarade, surtout, il y a un grand échec. Puisque nous, on est venus dans nos pays d'origine, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, etc., etc., avec une philosophie d'ouverture d'esprit totale, et qui s'adaptait avec le monde moderne, et qui donnait des solutions aussi, surtout des solutions dans le point de la vie quotidienne, à des problèmes que le monde moderne a mis sur la table. Et ça, dans le monde actuel de l'orthodoxie, qui est influencé par l'orthodoxie ashkénaze, qu'on appelle en Israël la Lituanie, la population a des fois le sentiment que la religion est là pour les déranger, pas pour leur faciliter la vie. Et moi, je pense que non, je pense au contraire. On est là pour donner des solutions, et c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Le Likoud avait besoin des partis ultra-orthodoxes pour faire passer sa philosophie. À cause de ça, il a accepté toutes les conditions des partis ultra-orthodoxes, ça veut dire... Ne pas servir au service militaire, ok, on vous donne parce qu'on a besoin de votre voix. ne pas travailler, étudier, ok, on vous donne parce qu'on a besoin de votre voix, de faire passer des lois qui ne sont pas acceptées par la majorité du pays, on a accepté à cause de ça, c'est une tragédie. Je ne viens pas pour lutter contre l'orthodoxie, loin de là. Par contre, je pense qu'il y a plusieurs chemins qu'on n'adapte pas, et on prend plutôt le côté extrémiste. Je pense que le rabbinat a été... il y a eu une OPA sur le rabbinat, et au lieu d'avoir un rabbinat sioniste et très modéré, on a aujourd'hui un rabbinat qui est ultra-extrémiste.
Alors, est-ce que vous pensez qu'un parti politique dirigé par Benjamin Netanyahou s'est arrangé avec cette minorité pour que chacun, et l'un et l'autre, garde le pouvoir?
Tout à fait. Tout le monde le sait. Benjamin Netanyahou, je connais bien, j'ai côtoyé, j'étais moi-même à la Knesset. Il est d'accord à 100% tout ce que je dis. Mais il me dit, mon cher Haïm, le jour où tu as un parti de 10 mandats, viens me parler. Mais pour l'instant, j'ai besoin de tes amis. Eh bien, c'est eux qui vont toucher la paye.
On est en Cisjordanie, dans un alignement de superbes collines colorées par les oliviers et par les arbres fruitiers. En quelques mois, un véritable lotissement a été construit ici. Il sert à reloger des colons qui ont été expulsés de leur village sur décision de la Cour suprême il y a un peu plus de 2 ans. Amir Hai, c'est le nom de cette nouvelle colonie, illustre la tension entre le juridique et le politique aujourd'hui en Israël. 2 ans après la destruction de sa maison, Yehuyada n'en veut plus aux partis au pouvoir qui ont soutenu la reconstruction de cette nouvelle colonie. Mais il en veut à la Cour suprême, qui est derrière l'application du droit.
Quand on voit ce qui se passe ici, que ce soit dans les colonies ou à l'extérieur, à Tel Aviv, qu'on soit de gauche ou de droite, ce qu'on peut voir, c'est que le développement du pouvoir judiciaire en Israël est devenu tellement fort ces dernières années qu'il porte atteinte à la démocratie. On peut parler d'activisme poussé à l'extrême, comme ça n'existe dans aucune autre démocratie. Et c'est clair qu'il y a quelque chose d'anormal. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un groupe de gens qui sont des gens remarquables, intelligents, bien intentionnés, mais systématiquement, ils prennent des décisions, ils imposent des décisions dans la vie politique israélienne, alors qu'ils n'ont jamais été élus à aucun poste. Et ils remettent en question des décisions de ceux qui ont été élus. C'est une situation qui est devenue intolérable.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en Israël, il faudrait remettre en question la séparation du pouvoir ?
Non, je ne veux pas supprimer la séparation des pouvoirs. Elle est importante. C'est la base même de la démocratie. Il n'est pas question de l'annuler. Mais ce que je voudrais, c'est que chacun de ses pouvoirs reste à sa place. C'est-à-dire que l'Assemblée, la Knesset, qui représente le peuple, décide des lois et que le pouvoir judiciaire les applique et qu'il ne décide pas contre les lois. C'est le pouvoir législatif qui applique les décisions du peuple.
La coalition au pouvoir depuis 2015 fait aussi beaucoup de place à l'idéologie des colons d'extrême droite. Elle a été diffusée avec beaucoup de force et d'efficacité par un petit parti national religieux qui a été soutenu par une mutation ces dernières années au sein même du Likoud, mutation qui l'a rendu plus radical. L'état de droit en Israël est fragilisé, les institutions sont attaquées, d'autant plus ces derniers mois que la justice s'est rapprochée du Premier ministre. La réforme de la justice et du mode de nomination est devenue un thème pour l'extrême droite. Dalia Schenling est politologue spécialisée dans les enquêtes d'opinion.
Ils ont dans l'idée qu'une vieille élite, en quelque sorte, dirigerait le pays, comme un État profond, même si la gauche n'est plus au pouvoir ici depuis longtemps maintenant. Il y a quand même cette idée que certaines institutions en Israël, comme les tribunaux, les médias, le monde universitaire et la société civile, seraient dominées par une frange libérale cosmopolite qui préférerait lâcher une partie du pays, qui préférerait stopper la construction des colonies et qui préférerait apporter un ancrage constitutionnel légal pour l'égalité, y compris d'ailleurs pour les citoyens non-juifs. Et ça leur donne le sentiment d'être menacés. Ça leur donne aussi le sentiment que ce n'est pas juste. Ces gens ne sont pas élus. Donc si vous appartenez à la droite, vous dites, on n'a pas élu ces gens. Pourquoi est-ce qu'ils ont un tel contrôle sur notre société ? Je pense que ce que Netanyahu a particulièrement réussi, c'est qu'il a identifié ce basculement dans la vie israélienne, ce nouveau regard sur la société, comme la menace sur les valeurs juives et la menace sur l'identité juive. Bien sûr, il y a l'idée que, de manière générale, l'antisémitisme signifie qu'Israël doit être un État juif très fort, et l'idée aussi que les valeurs libérales de justice universelle défendues par des juges militants menaceraient, compromettraient l'identité du pays. Je pense qu'il a identifié cela et qu'il s'en est servi. Et il s'en sert autant qu'il en a besoin pour se présenter comme celui qui protège ces valeurs. Maintenant, oui, c'est vrai, il n'est pas le ministre de la Justice. Mais il est vrai aussi qu'il a fait entrer les extrémistes du parti Foyer Juif dans sa coalition et qu'il a accepté d'avoir comme ministre de la Justice Ayelet Sheked, qui va loin, beaucoup plus loin, pour essayer d'affaiblir le pouvoir des tribunaux. Et ça colle parfaitement avec son propre besoin de délégitimer les poursuites qui ont été lancées contre lui. Maintenant, si vous voulez comprendre le rapport de force dans la société israélienne, il faut savoir que les gens qui se définissent du centre et de la gauche pèsent 40%. Donc ils ne sont pas moins nombreux qu'à droite. Ce sont les deux blocs dans la société. Et ils sont à peu près égaux. Et ces gens disent, oui, Netanyahou est prêt à sacrifier nos valeurs démocratiques, à sacrifier notre système judiciaire pour se maintenir au pouvoir. Il ne peut pas lâcher le pouvoir. Il dirige depuis 10 ans. Il est ivre de pouvoir. Il a abusé. Il a probablement enfreint la loi. Et plutôt que se défendre, il préfère affaiblir les gens qu'il a lui-même nommés, comme l'ancien chef de la police et bien sûr le procureur général. Ce sont des gens qui ont été nommés sous son mandat. Au lieu d'accepter cela et de dire « je vais me défendre contre ces accusations », il accuse ces gens de participer à une conspiration de la gauche. Ce qui est absurde pour les gens de gauche ou du centre, et ce qui leur fait penser que ça n'est que pour son intérêt personnel.
L'identité est aussi devenue un thème central. L'été dernier, une loi a été adoptée pour renforcer le caractère juif de l'État d'Israël. À l'extrême droite, l'identité a pris le pas sur le caractère religieux. Un cap supplémentaire a été franchi pendant la campagne avec l'inclusion d'une formation ultra-radicale dans une coalition d'extrême droite soutenue par le Premier ministre. Cette formation s'appelle Otzma. Elle puise ses racines dans un courant raciste qui a été exclu du champ politique dans les années 80. Il a élevé ses universitaires. Il soutient ce petit parti qui pourrait faire son retour au Parlement d'après les derniers sondages. L'identité juive est pour lui primordiale.
Of course, there is an inner assimilation. There are rabbis, modern orthodox rabbis.
Bien sûr, il y a une assimilation interne. Il y a des rabbins, même orthodoxes, qui sont complètement fous. Ils disent que les gens peuvent se marier ici, civilement. Et dans ce cas-là, moins de la moitié des Juifs vont se marier religieusement. Et les familles seront assimilées. Elles ne seront même plus des familles. Tous les homosexuels vont détruire la famille traditionnelle. C'est un désastre. Les Juifs sont devenus fous. Ils imitent les pires goyim de la planète, comme à San Francisco, comme en France, comme tous ces gens de la Gay Pride. Vous savez, en Europe où ce choix a été fait, il n'y a pas de retour en arrière. Il y a moins de 1% maintenant de race blanche. Il n'y a plus que dans les zoos où vous pouvez voir des hommes blonds. Vous pouvez voir dans les rues d'Amsterdam, de Hollande, dans tous ces pays, ils ont été conquis à cause de cette idéologie stupide, à cause de Merkel. C'est de la décadence. Les gens ont renoncé à leur religion, les églises sont devenues des mosquées.
Salut les chayim,
En interne, la radicalisation et les mutations de ces dernières années créent des tensions, mais les humanistes et le camp de la paix n'ont toujours pas de véritable relais politique dans le pays. L'onde de choc est donc venue de l'extérieur, des États-Unis. Deux femmes dans la communauté juive américaine ont incarné le malaise vis-à-vis des politiques israéliennes. La première, c'est Nathalie Portman vis-à-vis de Gaza. La deuxième, c'est Gal Gadot, la superwoman adulée par la presse en Israël, qui s'invite dans une polémique avec le Premier ministre en prenant le parti du dialogue et de la tolérance. Plus largement, la diaspora juive aux États-Unis se détache de cette gouvernance. Le malaise est profond, dit Dov Waxman. Il est américain, c'est un universitaire spécialisé notamment sur la politique israélienne.
Les juifs américains, en grande partie, sont très libéraux. Libéraux politiquement, libéraux socialement, et libéraux aussi dans la façon de pratiquer le judaïsme. La plupart pratiquent un judaïsme progressif, égalitariste. Et c'est très différent de la plupart des juifs israéliens, qui sont beaucoup plus conservateurs, sur le plan politique d'abord, plus à droite vis-à-vis du conflit avec les Palestiniens, plus favorables à une réponse musclée. Ensuite, plus à droite sur le plan social, sur des sujets comme l'avortement, par exemple, et la relation entre la religion et l'État, et aussi plus conservateurs dans leur conception du judaïsme. Donc il y a toute une série de sujets sur lesquels les juifs américains et les juifs israéliens sont en désaccord. Mais là où c'est le plus criant, je pense, c'est dans leur attitude vis-à-vis du conflit entre les Israéliens et les Palestiniens. Parce que beaucoup de Juifs israéliens, même s'ils ne sont pas à droite, s'ils sont critiques du Premier ministre Netanyahou, ils ne considèrent pas qu'il y a une pression ou un besoin d'ouvrir un processus diplomatique avec les Palestiniens. Ils ont renoncé au processus de paix. Le sujet palestinien, si vous voulez, est pratiquement mort dans la politique israélienne aujourd'hui. Pour les juifs américains qui regardent cela de loin, il y a de l'inquiétude vis-à-vis de l'isolement croissant d'Israël. Ils sont inquiets de la polarisation en Israël. Donc ils estiment qu'il y a une véritable urgence et ils sont inquiets de voir le refus en Israël de prendre en main ce qu'ils voient comme un enjeu existentiel majeur pour le futur, qui est la capacité à rester un État juif et démocratique.
Est-ce qu'il y a aussi une coupure vis-à-vis de l'attachement à la politique de Donald Trump? Parce que Netanyahou soutient plus de 100% Donald Trump.
Pour les juifs américains, si on écarte son soutien pour Israël, Trump est vu avant tout pour ce qu'il fait sur le plan intérieur aux États-Unis. Il y a différents points de vue, mais pour les juifs américains, le premier ministre Netanyahou non seulement soutient Trump, mais il fait corps avec lui. Et d'une certaine façon, il lui donne une certification cachère. C'est particulièrement grave pour les juifs américains parce que le désaccord n'est plus seulement vis-à-vis de la politique israélienne, mais ça touche leur quotidien et leur place aux États-Unis. Et je pense que c'était particulièrement visible après la tuerie de la synagogue de Pittsburgh. Le fait que le premier ministre Netanyahou et Naftali Bennett, le ministre de l'éducation et de la diaspora, sont sortis de leur réserve pour quasiment exempter l'administration Trump de toute forme de complicité dans ce qui s'est passé dans cette tragédie, c'était, je crois, du jamais vu. Et je pense que c'était particulièrement choquant pour beaucoup de juifs américains. Parce que ça voulait non seulement dire que les leaders israéliens étaient complètement froids devant les sentiments et les peurs des juifs américains face à la montée des nazis et des suprémacistes blancs aux États-Unis et de la façon dont cela menace les juifs américains, mais en plus, ils étaient en train de nier cette réalité. Ils ont quasiment dit aux juifs américains « Vous devriez plutôt être inquiet vis-à-vis du mouvement de gauche antisioniste qui veut boycotter Israël. » Je pense que pour beaucoup de juifs américains, ce manquement de la part du Premier ministre Netanyahou, c'est quelque chose qui préoccupe profondément. Parce que maintenant, comme je l'ai dit, ce n'est plus seulement un désaccord sur ce qui se passe en Israël, mais c'est aussi un désaccord sur ce qui se passe aux États-Unis. Yerushalayim shel zahav ve shel nechoshet ve shel or.
quoi qu'il arrive pendant ces élections, Benjamin Netanyahou a profondément marqué la politique israélienne. Les mutations de ces trois dernières années sont importantes et l'extrême droite espère, après ces élections, pouvoir encore renforcer cette emprise idéologique.
Netanyahou, 10 ans après, l'État d'Israël. Un reportage d'Étienne Monin avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Invitée de ce grand reportage, la sociologue Eva Illouz, directrice d'études à l'EHESS en direct de Jérusalem. Et là, Illouz, vous qui explorez volontiers les sentiments et les émotions, comment est-ce que vous expliquez l'engouement persistant d'une partie des Israéliens pour Benjamin Netanyahou? Comment ça se fait qu'il soit pas plus usé par le pouvoir au bout de 10 ans au poste de Premier ministre?
Alors, il y a des explications qui sont dues à Netanyahou lui-même et d'autres qui sont dues à des processus plus globaux et structuraux à la société israélienne. Je vais dire quelques mots sur Netanyahou lui-même et sur sa vision de la politique. Alors, il faut comprendre que Netanyahou a dit de façon répétée que seuls les forts survivent et que les faibles ne peuvent pas survivre. Et c'est un peu sur cette conception hobbesienne, je dirais, de la politique que toute sa stratégie est basée. Et pour lui, Israël doit être fort économiquement, politiquement et militairement, sachant que pour lui, chacun de ces domaines doit soutenir l'autre. Donc, Netanyahou a réussi à convaincre les Israéliens qu'il était en fait le seul à pouvoir mener à bien cette tâche et à rendre Israël très fort. Et si vous voulez, il a donc posé une question qui est intéressante et pour les démocraties contemporaines. Et cette question qui est intéressante, c'est la question de savoir si on peut penser le pouvoir en démocratie en termes de force et de pouvoir comme Netanyahou l'a fait. Donc la première chose à dire, c'est qu'il a réussi à convaincre les Israéliens que l'horizon de la pensée politique se résumait finalement à cette question du pouvoir.
Alors il dit je voudrais qu'on se souvienne de moi comme le protecteur d'Israël, ça me suffit.
Oui, alors il a très bien réussi à faire ça. Alors par exemple en accusant la gauche depuis déjà plusieurs années, ça n'a pas commencé en 2015 comme Gideon Arad dans le reportage le soutient. Depuis déjà très longtemps, Netanyahou a entamé un processus de délégitimation de la gauche. En 1996, par exemple, il a susurré à l'oreille d'un grand rabbin à propos de la gauche qu'ils avaient oublié d'être juifs. Et quand Benny Gantz a promis à la communauté druze de changer la loi de l'État-nation récemment, Netanyahou a su très bien utiliser ça à son avantage en l'accusant d'être pro-arabe. Donc, délégitimation de la gauche qui est manifeste par le fait que si on regarde le champ du pouvoir politique en Israël, on s'aperçoit qu'il est complètement dominé par la matrice du Likoud, puisque le parti de Moshe Kahlon, tous ensemble, Kahlon est en fait un ancien membre du Likoud. Gabay, qui est le chef du parti travailliste lui-même, est un ancien membre du parti de Kahlon lui-même. Et c'est quelqu'un qui est sans doute de droite, mais c'est lui qui est le chef du parti travailliste. Donc en fait, je dirais que la grande majorité de la nébuleuse du Likoud, que le Likoud en fait domine la politique israélienne. Ensuite, pour comprendre pourquoi Netanyahou perdure, il faut comprendre aussi qu'il a réussi à convaincre les Israéliens que les médias mentaient et que le judiciaire, que l'appareil judiciaire aussi avait un pouvoir illégitime. Et donc il a utilisé là aussi une stratégie populiste qui est très bien utilisée par Trump, par exemple. Cette stratégie populiste qui consiste à délégitimer les rouages traditionnels de la démocratie.
Ce qui fait que quand il est menacé d'inculpation pour corruption, fraude, abus de confiance, bah, finalement, ça ne refroidit pas ses électeurs qui se disent ça n'est pas la justice. En fait, on agit contre Benjamin Netanyahou.
Oui, exactement. En fait, Netanyahou a un talent extraordinaire pour retourner toute accusation contre lui, pour la retourner contre l'accusateur. On voit bien, par exemple, là, récemment, il y a eu un scandale sur des comptes Facebook qui seraient des faux comptes. Et il y a eu une campagne de Netanyahou qui a répondu immédiatement en invoquant une vieille histoire de discrimination contre les Mizrahim en disant on vous a d'abord les séfarades, c'est-à-dire les juifs d'origine qui viennent de pays arabes, on vous a d'abord traité d'idiots et la gauche israélienne a discriminé contre vous et maintenant on dit de vous que vous avez des comptes faux. Donc il est extraordinairement c'est quelqu'un qui manipule l'accusation contre lui de façon exceptionnelle. Et puisque vous me posiez la question auparavant, la question sur les sentiments, je dirais que Netanyahou est le maître de la peur. Netanyahou sait très bien manipuler deux sentiments, ou je dirais trois sentiments qui sont essentiels à la politique populiste. Un, c'est le ressentiment, le deuxième, c'est la peur, et le troisième, c'est la fierté nationale. Alors, le ressentiment, parce que ceux qui votent pour le Likoud, ce sont historiquement les juifs qui viennent de pays arabes, les séfarades, qui depuis 1977, c'est-à-dire depuis que Begin a été élu, se sont ralliés massivement au Likoud. C'est ce qui fait dire certains que les élections en Israël sont devenues des élections tribales. C'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit la plateforme idéologique du candidat, il y a maintenant les électeurs appartiennent à une famille politique qu'ils ne quitteront pas, en fait. Donc une tribalisation. Et une tribalisation qui est due aussi au ressentiment que la droite a très bien su utiliser. Ensuite, la peur parce que Netanyahou a très bien su invoquer Hitler et faire une équivalence entre les Arabes et Hitler et invoquer la peur de l'Holocauste, notamment en ce qui concerne l'Iran. Et la fierté nationale, puisque Netanyahou invoque à la fois le judaïsme, la performance économique et la performance diplomatique d'Israël pour donner le sentiment qu'Israël est une superpuissance mondiale, une nouvelle superpuissance mondiale. Mais là, je dirais donc ressentiment, peur et fierté, ce sont les trois sentiments essentiels de cette politique populiste de Netanyahou.
Mais alors, je reviens quand même sur cette question de justice, parce que vous dites Netanyahou manipule l'opinion. Est-ce que les gens le croient véritablement, ou est-ce qu'ils se disent, après tout, la moralité, la droiture, c'est pas ça les qualités essentielles, nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir un homme fort?
Je crois que quand on crée une politique précisément sécuritaire, qui est basée sur la force et sur la peur, on n'arrive plus à poser le genre de questions que vous venez de poser. Et je pense que c'est ça la force de Netanyahou, c'est qu'il a réussi à convaincre qu'il est l'homme fort de la région. Et que finalement, si on est face à une menace existentielle, il faut toujours choisir l'homme fort.
Et alors, Étienne Monin, il y avait personne, même dans le propre camp de Benjamin Netanyahou, pour lui faire un petit peu d'ombre, pour dire le cap est le bon, mais lui, il a quand même quelques casseroles, on peut le mettre de côté, et il y a d'autres personnes qui pourraient prendre la relève.
Il y a deux éléments au sein du Likoud, en fait, depuis quelques années. Le premier élément, c'est ce qu'on pourrait appeler une dégradation du personnel politique en Israël. C'est-à-dire qu'autour de Netanyahou sont apparus des personnages, des personnes qui n'avaient pas la surface politique, qui n'avaient pas l'idéologie, qui n'avaient pas la force pour essayer de lui faire une concurrence. Ce sont des gens très vocaux, mais ce sont pas des gens qui avaient l'épaisseur politique pour essayer de créer cette concurrence. Elle existe quand même. Il y a des personnes politiques, des personnages politiques qui sont là depuis longtemps
et qui ont cette surface-là. Mais Netanyahou s'est employé à les écarter, soit à les sortir du parti, soit à saper leur carrière politique, soit à les éloigner du champ politique en les plaçant dans des postes à l'étranger. Ce qui fait qu'il y a une espèce de phénomène ici où quand une tête apparaît, elle disparaît ensuite parce que Benjamin Netanyahou fait en sorte de créer une espèce de vide autour de lui. Il a une pratique assez assez solitaire, on va dire, du pouvoir, même s'il a des conseillers. Il prend en main à la fois le poste de Premier ministre, il prend en main le poste de ministre de la Défense. Il a toujours en main, même si un ministre a été nommé très récemment, le poste de ministre des Affaires étrangères. C'est lui qui impulse la politique et ça fonctionne comme ça depuis des années. Il a cette surface-là et cette capacité à éliminer ses adversaires ou les gens qui pourraient prétendre derrière à essayer de monter sur la marche.
Et dans l'opposition, il n'y a pas vraiment d'alternative forte non plus. Benny Gantz n'a pas été très très précis sur son programme. C'est peut-être un peu ça sa faiblesse.
Benny Gantz, c'est le désir d'alternance. C'est finalement celui qui peut incarner la possibilité de changer et de changer Benjamin Netanyahou. Mais derrière, il a fait une alliance politique qui va du centre à la droite, mais qui est qualifiée de centre-gauche. Donc déjà le postulat de base est un petit peu nébuleux. Ensuite, effectivement, la plateforme politique n'est pas une plateforme très claire. Il est ferme sur la sécurité, mais il a des positions qui sont très proches de celles de Benjamin Netanyahou, et on ne sait pas précisément ce qui se passerait. Benny Gantz, c'est une alternative et une aventure politique. Donc il y a du désir, il a réussi à avoir une surface en termes d'intention de vote qui est importante. Il pourrait dépasser le Likoud mardi prochain au niveau des votes et du nombre de députés, mais il n'est pas sûr qu'il ait la capacité de faire une coalition, et c'est là toute la difficulté, arriver à avoir une majorité, 61 députés sur 120 pour gouverner. Là-dessus, c'est beaucoup plus incertain.
Eva Illouz, pour rester au pouvoir, Benjamin Netanyahou s'appuie sur les ultra-orthodoxes. Il leur a donné beaucoup de gages. Alors, c'est impressionnant ce poids du courant ultra-orthodoxe dans un pays qui est pourtant à la pointe de la technologie. On parle d'Israël comme d'une start-up nation. Comment est-ce qu'on vit ce paradoxe en Israël ?
C'est un paradoxe qui est à l'origine même de l'État d'Israël, puisque en 1947, Ben Gurion a fait passer un accord avec un parti ultra-orthodoxe, Agudat Israël, enfin qui n'était pas encore un parti, donc signé un accord qui est devenu qu'on connaît sous le nom du status quo, et status quo donc entre les laïcs et les orthodoxes. Il s'agit donc la lettre préconisait donc la cacheroute dans les institutions publiques, le Shabbat, pas de transport en commun, et le fait que les rabbins pouvaient contrôler les lois personnelles, donc du mariage notamment, de la conversion, et l'autonomie de l'éducation religieuse. Donc au départ même, on a un État laïque qui se veut complètement laïque, l'État ne se veut pas laïque, mais disons, les gens qui gouvernent sont laïques et se veulent laïques. La culture se veut, elle, laïque, même si elle a des bases dans la Bible, notamment, non pas dans la religion, mais dans la Bible, comme texte, je dirais, philosophique et littéraire. Donc, ce paradoxe est à l'origine même de l'État d'Israël, mais il s'est accentué avec les années, puisque les orthodoxes sont devenus des partis politiques, et parfois des partis politiques assez puissants sans lesquels on ne peut pas construire de coalition. Donc il faut comprendre la présence des partis ultra-orthodoxes comme émanant notamment de la démocratie israélienne, où très souvent on a besoin d'eux pour former un bloc majoritaire.
Et alors, on assiste en Israël au renforcement de la question identitaire. Vous évoquiez tout à l'heure cette loi Israël, État-nation du peuple juif, qui a été adoptée l'année dernière par la Knesset. Quel est son impact ? Elle renforce les tensions identitaires ? Elle oppose vraiment les juifs et les arabes ?
Alors, je pense que l'impact a été immense sur la communauté druze et la communauté arabe. Il faut comprendre que jusqu'à la loi, Bon, cette loi ne fait en quelque sorte qu'entériner, c'est ce que beaucoup ont dit, elle ne fait qu'entériner ce qui déjà existait, c'est-à-dire le fait que l'hébreu est la langue privilégiée de l'État juif, le fait que les symboles nationaux de l'État juif soient juifs, et donc beaucoup de gens ont dit que il ne s'agissait pas d'un très grand changement.
Ça va plus loin quand même. Ça va plus loin quand même.
Oui, oui. Mais alors, ce qui va plus loin, c'est que, bon, d'abord, la langue arabe n'est plus officielle. C'est devenu une langue qui est dotée d'un statut spécial. Mais ensuite, la notion de l'égalité entre tous les habitants de l'État d'Israël n'a pas été mentionnée dans cette loi fondamentale, ce qui est très grave. Et ensuite, je pense que c'est très important pour beaucoup de domaines, de laisser les choses floues. Même si dans les faits, Israël se comportait comme le pays des Juifs, cette loi fondamentale vient finalement liquider ce flou juridique qui existait. Et le résultat a été de donner la preuve, en quelque sorte, aux Druzes et aux Arabes qu'ils étaient des citoyens de seconde zone.
Merci beaucoup Eva Ilouz, vous étiez avec nous en direct de Jérusalem. Netanyahou, 10 ans après l'État d'Israël. Le grand reportage de cette semaine était signé Étienne Monin. Réalisation Annie Brault avec Jean-Guilain Meige à la technique. Merci également à l'équipe de la documentation d'actualité de Radio France pour son aide. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.